L'affaire du jour est très souvent comparée à celle d'Ariel Castro. Souvenez-vous, c'est celui qui avait kidnappé trois femmes et qui les avait gardées captives des années durant dans sa maison de Cleveland. L'affaire avait fait la une des médias du monde entier, elle avait choqué les Américains. Il faut avouer que ce genre de cas n'est pas courant. Et voilà que moins d'un an plus tard, les Américains découvrent une histoire tout aussi effroyable et assez similaire. Celle d'un homme qui, à la suite d'une dispute avec sa compagne, ne trouvera rien de mieux à faire que de kidnapper sa fille adolescente, de la garder captive, d'en faire sa femme et de lui faire un enfant avant qu'elle ne puisse enfin s'échapper 10 ans plus tard. Mais cette affaire est peut-être plus complexe qu'elle en a l'air. Beaucoup vont se demander si c'était là un kidnapping ou si ce n'était pas en réalité une fugue minutieusement préparée. Je vous propose de découvrir aujourd'hui l'incroyable histoire d'Isidro Garcia. Et avant toute chose, il est important de préciser que l'identité de la victime n'a jamais été révélée. Donc je vous propose de faciliter les choses en l'appelant Christelle. Sachez aussi que même s'il existe des photos d'elle, vous ne verrez pas son visage puisqu'il a été flouté. Et enfin, sachez que cette histoire va à coup sûr vous diviser. Alors je vais tenter d'être la plus factuelle possible pour vous laisser vous faire votre propre avis. Et n'hésitez pas à le partager en commentaire et j'en reparle un peu plus tard à la fin de la vidéo. Donc, direction la Californie aux États-Unis en août 2004. Une mère folle d'inquiétude pousse la porte d'un commissariat. Elle vient déclarer la disparition de sa fille, Christelle, âgée de 15 ans. Elle explique que sa fille est née et a vécu au Mexique et qu'elle l'a rejoint ici aux États-Unis en début d'année. C'était 6 mois plus tôt, en février 2004. Et comme sa fille est arrivée illégalement dans le pays, eh bien, elle ne connaît pas le pays et elle ne parle pas anglais. Elle était alors venue s'installer chez elle à Santa Ana. Alors, petite parenthèse, je précise que au moment des faits, la maman vivait alors avec son compagnon, un certain Isidro Garcia, âgé de 31 ans, et son autre fille, donc la sœur de Christelle. Mais je ne sais rien de plus. Ni leur nom, ni leur âge. Donc, entre deux sanglots, la maman explique que tout est allé très vite. La veille au soir, elle s'était une énième fois disputée avec son compagnon Isidro. Elle précise qu'elle a été agressée par Isidro. D'ailleurs, il faut savoir, autre petite parenthèse, qu'une équipe de police s'était déjà déplacée au domicile, peu de temps avant les faits, pour des faits similaires, justement. Et donc, la maman explique que l'altercation était telle que Christelle était partie en courant de la maison. Elle était partie se réfugier dehors, probablement pour ne pas assister à tout ça. D'ailleurs, n'en pouvant plus elle-même, elle était également sortie prendre l'air. Et peu de temps après, elle a attendu le retour de sa fille, mais elle n'est pas rentrée ce soir-là, alors elle l'a cherchée partout, et ne la trouvant pas, elle s'est décidée à venir signaler sa disparition. Mais ce n'est pas tout. Elle explique aussi qu'elle soupçonne Isidro, son compagnon, de l'avoir kidnappé. Isidro, qui n'était plus là à son retour à la maison, est plus inquiétant encore. Elle précise aussi que, même si elle n'en a aucune preuve, elle le soupçonne d'avoir abusé de Christelle. Elle pense qu'il a commencé environ 2 mois avant sa disparition. Elle a bien essayé de le joindre, mais il ne répond pas à ses appels et il est, lui aussi, introuvable. Ce qui la conforte donc dans l'idée qu'il est le responsable. D'autant plus qu'encore une fois, comme sa fille ne connaît ni le pays ni la langue, elle l'imagine mal partir comme ça à l'aventure. Donc voilà pour le témoignage de la maman. Et si vous avez des questions, comme par exemple le motif de la dispute entre le couple, sachez qu'il n'y a pas de réponse. Je n'ai trouvé de réponse nulle part. C'était il y a 10 ans. C'était à l'époque une disparition parmi tant d'autres, donc il y a assez peu d'informations là-dessus, et plus tard encore, il n'y en aura pas plus. Les policiers vont prendre cette disparition au sérieux, ils vont diffuser un avis de disparition, ils vont essayer de retrouver et d'interroger Isidro, mais ça ne donnera rien. Personne ne va se manifester, et Isidro est quant à lui introuvable. Et peu de chance que les policiers mettent la main sur lui parce que de toute façon, il était lui aussi en situation irrégulière. Mais les policiers n'excluent pas l'hypothèse de la fugue puisque Christelle est partie d'elle-même. Donc elle a peut-être tout simplement voulu échapper à un foyer violent. Quant aux accusations de la mère, même s'ils prennent ces accusations au sérieux, ils se disent que c'est peut-être là la colère qui parle. C'est peut-être un acte de vengeance. Bref, tout est possible, mais en l'état, les policiers ne peuvent rien faire de plus. Rétrospectivement, la justice considère qu'ils ont fait, je cite, « preuve de diligence raisonnable » à l'époque. Donc ils ont fait leur boulot. Donc, la pauvre maman, faute de mieux, va faire le tour des voisins. Elle va d'elle-même poser des affiches. Elle va attendre des nuits entières près de son téléphone, mais les jours vont passer sans que sa fille ne réapparaisse. Et ce fichu Isidro, il est toujours aux abonnés absents et il n'a même pas daigné venir récupérer ses affaires. Mais la maman ne lâche rien. C'est un supplice que de savoir sa fille seule dans la nature. Alors elle va contacter plusieurs médias pour lancer un appel à témoins. Et rares sont ceux à s'intéresser au sort de Christelle. Mais elle aura néanmoins la chance de se voir consacrer un peu de temps d'antenne à la télévision, je ne sais pas sur quelle chaîne, et un journal hispanophone fera également un article. Mais les semaines passent et toujours rien. Alors la maman ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment de culpabilité. Elle s'en veut d'avoir fait venir sa fille ici, au moins au Mexique. Elle était en sécurité avec la famille. Elle, qui voulait un avenir meilleur pour elle, voilà sa fille, seule et perdue dans la nature. Alors, elle prie juste pour qu'elle soit en sécurité et encore en vie. Puis, un an va passer, deux, puis trois, et la seule chose que peut faire la famille, c'est garder espoir, attendre qu'un miracle ne se produise. Et un miracle va effectivement se produire. Un sacré miracle qui va se produire 10 ans après la disparition de Christelle. Un beau jour, le lundi 19 mai 2014, alors que la sœur de Christelle consulte ses messages Facebook, elle tombe sur un message à peine croyable. L'utilisateur ne fait pas partie de ses contacts et en lisant le message, elle se rend compte que c'est Christelle. Christelle qui est alors âgée de 25 ans. Elle a cherché et trouvé sa sœur sur Facebook et elle lui a écrit. Et la sœur de Christelle, aussitôt rejointe par sa mère, sont aussi choquées qu'heureuses. Et c'est bouleversées qu'elles vont découvrir que tout ce temps, eh bien Christelle n'était pas bien loin. Elle était à seulement 30 km de là. C'est à moins d'une demi-heure en voiture du lieu de la disparition. Et donc dans son message, Christelle explique à sa sœur ce dont sa mère s'est toujours doutée. Elle explique qu'elle a été kidnappée par Isidro, qu'il l'a retenue captive, qu'il l'a forcée à se marier avec lui et qu'un enfant est né de cette union imposée. Dans un premier temps, il l'a convaincue de ne pas tenter de s'échapper pour retrouver sa famille. Il lui a dit que, je cite, « Tu ne peux pas rentrer chez toi, tu es ici illégalement, tu ne parles pas la langue ». Ta mère a appelé la police, alors aussitôt que les policiers vont te trouver, ils vont te renvoyer au pays. Et ça, dans un premier temps, ça lui a passé toute envie de tenter quoi que ce soit. Et puis, quand elle est devenue maman, elle était terrorisée à l'idée d'être expulsée et séparée de sa fille. Donc elle n'a rien fait, mais n'en pouvant plus, et à force de mauvais traitements quotidiens, à force d'être enfermée comme un prisonnier à l'isolement, elle avait tenté le tout pour le tout, par deux fois. Elle avait tenté de s'échapper, mais Isidro l'avait rattrapée et il l'avait à chaque fois massacrée. Et puis il n'a eu de cesse de lui dire encore et encore, jour après jour, pendant des années, que plus personne ne la cherchait, ni elle, ni leur mère. Alors elle avait abandonné tout espoir, s'enfuir, oui, mais pour aller où, finalement, si même sa propre famille ne veut plus d'elle, sans solution, elle est restée. Alors quand elle l'a trouvé sur Facebook, elle a simplement ressenti le besoin de lui écrire. Mais la sœur de Christelle va lui expliquer que c'est faux. Non, que tout ce que lui a dit Isidro est totalement faux, c'est même tout le contraire de la réalité. Elle explique qu'avec leur mère, elles ont tout tenté pour la retrouver, police, télé, journaux, et que même avec le temps, elles n'ont jamais cessé d'espérer et d'attendre son retour. Et Christelle, dans un premier temps, a du mal à y croire. Alors mère et fille vont lui envoyer l'article de presse de l'époque ainsi que les avis de recherche. Bouleversée, Christelle se rend compte que non, toutes ces années, elle n'était pas seule. Sa sœur lui dit alors de ne pas perdre une minute et de se rendre au plus vite au commissariat le plus proche. Mais Christelle hésite. Et si on l'expulsait, le risque est grand, celui de ne pas revoir sa fille, elle n'a que 3 ans. Mais à force d'arguments, sa sœur va réussir à la convaincre. Et puis après tout, Christelle ne veut pas d'une vie pareille pour sa fille. Alors le jour même, elle prend sa fille dans ses bras et s'en va au commissariat le plus proche pour raconter sa folle histoire. Une terrible histoire qui fera dans la foulée la une des médias, non pas du pays, mais du monde entier. Et voici son histoire, voici ce qu'elle va déclarer aux enquêteurs. Oui, elle a bien fui le soir de la dispute entre sa mère et Isidro, comme ça, sur un coup de tête. Elle n'a pas réfléchi, elle en avait juste marre de tous ses cris, alors elle était partie se réfugier dans le parc situé non loin de là. C'est ce qu'elle avait l'habitude de faire quand l'ambiance était irrespirable à la maison. Mais elle a vite été rejointe par Isidro. Bouleversée, elle explique aux enquêteurs qu'il abusait d'elle, et ce dans le dos de sa mère. Elle explique qu'environ 2 mois avant qu'il ne la kidnappe, il avait commencé par l'embrasser, puis qu'il l'a tripotée, puis qu'il l'a agressée à 3 reprises avant qu'il ne la viole au moins une fois. Elle explique qu'elle s'est tue pour ne pas faire de mal à sa mère, et elle pense avec le recul qu'Isidro l'avait en quelque sorte préparé. C'est son mot, préparé. En effet, avant les abus et pendant, il avait pris l'habitude de lui offrir des cadeaux, comme des vêtements, par exemple, et il prenait toujours soin de se ranger de son côté lorsqu'elle se disputait avec sa mère, ce qui arrivait souvent, puisque les retrouvailles entre mère et fille, après tant d'années à vivre dans des pays différents, eh bien, elle n'avait pas été facile. Elle n'était qu'une proie pour Isidro, et donc, quand elle a pris l'air le soir de la dispute, elle ne s'attendait pas à être suivie. Elle explique qu'alors qu'elle était assise sur un banc dans le parc, il était venu la voir. À ce moment, elle avait tout sauf envie de lui parler, elle lui a simplement dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle voulait rentrer chez elle. Mais Isidro lui a dit que sa mère avait appelé la police et que si elle rentrait chez elle, elle serait alors arrêtée et expulsée. Et comme il ne voulait pas qu'elle parte à la place, il l'a forcée à avaler 5 pilules, soi-disant pour soulager son mal de tête. Mais après les avoir avalées, elle a perdu connaissance et s'était réveillée quelques heures après dans un garage poisseux qui était alors fermé à clé. C'était non loin de là, à Compton, une ville située entre Los Angeles et Santa Ana. Et dès lors, il ne la quittera plus des yeux. Isidro l'a gardée captive toute une nuit dans le garage, puis il l'a ensuite déplacée du garage à une maison, toujours à Compton. Au début, elle était retenue captive. Pendant tout ce temps, il l'a convaincue que sa famille ne la cherchait plus. Alors à force de lui dire, elle a fini par le croire. Et n'ayant nulle part où aller, ne sachant pas parler anglais, et ayant peur d'être expulsée, elle s'était résignée à accepter son sort. Un sort cruel, puisqu'il la battait et abusait d'elle. Elle n'avait pas son mot à dire, elle était devenue sa chose. Elle était comme une simple poupée de chiffon. Il la fera déménager régulièrement pour davantage brouiller les pistes. N'en pouvant plus pour échapper à ce cauchemar, et même si elle n'avait nulle part où aller, eh bien, elle a tout de même essayé de s'enfuir à 2 reprises, mais à chaque fois, Isidro l'avait rattrapée, et pour la punir, il l'avait battue encore et encore, et tellement sévèrement que ça lui avait passé toute envie de recommencer. Et petit à petit, elle a commencé à bénéficier de plus en plus de liberté, mais toujours sous la surveillance d'Isidro, et c'était toujours la même chose, nouvelle adresse, nouvelle identité pour que ni la police ni aucun voisin ne se doute de rien. Et tout ce temps, il n'a jamais cessé d'être violent avec elle, autoritaire et bien sûr, il l'abusait continuellement. Puis, 3 ans après sa disparition, en 2007, lorsqu'elle a eu 18 ans, il a réussi à lui obtenir illégalement des papiers d'identité. Papiers d'identité qui lui donnaient une identité légale aux États-Unis. Il s'était procuré des documents au Mexique. Elle gardera le faux nom de Laura Ortiz avec une nouvelle date de naissance, puis il l'a forcé à l'épouser cette même année. Donc en plus de lui permettre de se marier, ses faux vrais papiers lui permettaient aussi de travailler. Donc elle a pu travailler, mais jamais seule, toujours sous la surveillance d'Isidro. Pour toujours plus de discrétion, il lui avait obtenu un travail de nuit dans une boîte dans laquelle il travaillait. Les deux faisaient des ménages la nuit. Et en plus de ne jamais pouvoir sortir, elle n'avait donc pas le droit de travailler seule. Du moins, au début. Après, elle le pourra. Puisqu'après des années d'abus et de conditionnement, il avait fini par la convaincre que sa mère ne, en plus de plus la chercher, ne voulait tout simplement plus d'elle. Alors bon, encore une fois, ne voyant aucun moyen de s'en sortir, elle n'a plus essayé de s'enfuir. Et gagnant ainsi la confiance de son ravisseur, elle a pu travailler seule. Elle pouvait sortir seule, aller faire ses courses, etc., etc. Et elle a expliqué qu'elle avait eu plusieurs fois l'occasion de s'enfuir, mais qu'encore une fois, pour aller où, pour faire quoi. Puis, en 2011, elle est tombée enceinte. Ce bébé a été pour elle une bouffée d'air frais dans sa vie. Elle a tenté de donner un semblant de vie normale à sa fille, malgré toute la violence dont Isidro n'a jamais cessé de faire preuve à son égard. Et au moment des retrouvailles avec sa sœur, ils habitaient alors un appartement à Bell Gardens et elle travaillait comme concierge dans le quartier. Puis la suite, vous la connaissez. Elle va un jour se connecter sur Facebook, chercher ses proches et c'est sa sœur qu'elle retrouvera et qu'elle contactera. Les policiers comprennent alors qu'ils ont sous les yeux une adolescente disparue depuis 10 ans. Ils ne vont sans aucun mal retrouver Isidro. Il sera arrêté le jour même, non loin de chez lui, grâce aux indications de Christelle, au détour d'un contrôle de police. Il se faisait alors appeler Thomas Madrano. Il est incarcéré dans la foulée et comme je vous le disais, comme ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve une adolescente disparue après autant d'années, eh bien la nouvelle de cette incroyable histoire va être massivement relayée et très très rapidement. Tous vont se réjouir, à commencer bien sûr par la famille de Christelle. Imaginez un peu leur joie, mais pas que, les Américains aussi vont se réjouir. C'est là bien la preuve que dans la vie, tout est possible et qu'il ne vaut jamais perdre espoir. Et alors que tous pensent cette histoire terminée, elle ne fait en réalité que commencer, puisqu'elle va se révéler bien plus complexe qu'on l'imagine. À son interpellation, Isidro va, sans surprise, servir aux enquêteurs une toute autre histoire, une version qui, dans le fond, n'étonnera personne. Il va se dédouaner et dire que tout ça est faux. Il explique qu'il entretenait bien une relation avec Christelle, alors même qu'il était en couple avec sa mère, et alors même qu'elle n'avait que 15 ans, et lui 31, donc oui, ça c'est vrai, on peut tout à fait lui reprocher, il est coupable de ça, mais que cette relation était consentie, que certes ça fait une grande différence d'âge, mais que comme dirait R. Kelly, l'amour n'a pas d'âge. Ça j'avoue que c'est moi qui l'ai rajouté. Et il dit aussi qu'il ne l'a pas kidnappé le soir de sa disparition, que les deux ont fui ensemble. Et que non, il n'a jamais drogué Christelle. Au contraire, ils s'aimaient et ils voulaient vivre ensemble. Il explique même que c'était là la décision de Christelle. Et qu'il l'a simplement aidée à fuir une vie familiale malheureuse. Elle n'avait de cesse de se disputer avec sa mère et elle voulait partir depuis longtemps. Il explique qu'il ne l'a jamais retenue prisonnière et que d'ailleurs elle était libre de ses mouvements, libre de recontacter sa famille et qu'elle ne l'a pas fait volontairement parce qu'elle n'avait tout simplement pas envie de le faire. Et il pense que si elle s'est décidée à le faire 10 ans après, c'est que leur couple battait de l'aile. Alors ne voulant plus de lui, elle aurait trouvé cette solution pour se débarrasser vite fait, bien fait de lui et aussi pour avoir la garde de leur enfant. Il lui ne voit pas d'autre explication. Alors, inutile de vous dire que les policiers, en entendant tout ça, sont sceptiques, mais ils vont tout de même, et comme le veut la loi, mener leur enquête. Et ils vont découvrir que la famille, si on peut parler de famille, en tout cas cette famille composée de Christelle, Isidro et leur fille, étaient des habitants bien connus de la ville de Bell Gardens. C'était même une famille très respectée et appréciée de tous. Les policiers découvrent qu'ils avaient l'habitude de régulièrement aller en famille à l'église, qu'ils étaient connus pour les grandes fêtes qu'ils organisaient pour les enfants du quartier. C'était des tombolas, parfois des goûters. D'autres fois, ils louaient même des mascottes pour amuser les enfants, donc en même temps que leurs filles, bien sûr. Et les deux avaient des allures de couple modèle. Isidro n'avait pas hésité une fois à organiser un grand barbecue pour l'anniversaire de Christelle et il avait convié tout le voisinage et nombre d'habitants du quartier pour fêter l'événement. Il découvre qu'ils étaient partis en voyage à Disneyland, mais aussi à Las Vegas, et ils étaient régulièrement aperçus dehors à jouer avec leur fille comme un couple normal, finalement. Mais tout ça, pour les enquêteurs, ça veut tout et rien dire à la fois. On a déjà vu ce genre d'affaires où, de l'extérieur, le bourreau paraissait être un citoyen modèle. Je pense par exemple à John Wayne Gacy. S'il y avait eu l'élection du citoyen modèle dans sa ville, il aurait sûrement gagné l'élection sans problème. Mais quand les voisins vont apprendre la folle nouvelle, eh bien sachez qu'ils étaient stupéfaits. Ils n'en revenaient pas. Et justement, les voisins qui ont côtoyé le couple auront des versions à la fois surprenantes et bien différentes les unes des autres. À commencer par la nounou du couple. Sans savoir qui de l'un ou de l'autre dit vrai, elle explique aux enquêteurs qu'elle ne s'est, en tout cas à son niveau, jamais doutée de rien. Elle n'a rien remarqué qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Et jamais elle n'a été témoin de bagarres, de disputes ou de mauvais traitements. Rien. Puis une voisine, Maria Sanchez, qui a pas mal fréquenté le couple, et notamment Christelle, va déclarer, tout comme la nounou, que jamais, au grand jamais, elle ne s'est doutée de tout ça. Et elle ira même plus loin. Selon elle, la version de Christelle ne correspond pas à ce qu'elle a pu observer. Elle a déclaré qu'Isidro traitait Christelle comme une reine, qu'elle n'a aucun doute là-dessus. Selon elle, il n'y avait pas de relation dominant-dominée, au contraire. Isidro a toujours fait de son mieux pour satisfaire sa femme. Elle avait toujours, je cite, « tout ce qu'elle voulait ». Elle avait même sa propre voiture et rien dans le comportement de Christelle n'a laissé présager une quelconque contrainte ou des mauvais traitements. Alors elle explique que quand elle a entendu tout ça, bien que plus proche de Christelle que d'Isidro, eh bien elle s'est immédiatement rangée du côté d'Isidro. Selon elle, c'est lui qui dit la vérité. Il est vrai que la plupart des voisins interrogés par les policiers et les journalistes vont décrire Isidro comme un père de famille dévoué qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Il cumulait alors deux emplois, l'un dans un restaurant chinois et un autre comme opérateur de machine. En sachant qu'il fut un temps, ils avaient même fait des ménages dans les locaux même de l'administration de l'aide à l'enfance. Et au même moment, et comme je vous le disais, Christelle était-elle concierge dans un immeuble du quartier. Une autre voisine va également manifester son étonnement, une certaine Rita Salazar qui vivait juste en face de chez eux et qui, elle aussi, n'a jamais vu aucun signe pouvant indiquer que Christelle était retenue captive ou maltraitée. Pas de cris, pas de disputes. Elle a même déclaré, je cite, « Je suis étonnée qu'elle ait attendu si longtemps pour dire quelque chose ». Donc ce sont plusieurs voisins qui vont apporter leur soutien à Isidro. Certains n'hésitant pas à taxer Christelle de menteuse, tels que José Palanco qui dira, je cite, « Ce qu'elle dit n'est pas vrai, c'était une femme libre et on ne me fera jamais croire l'inverse ». Mais d'autres voisins vont venir apporter un autre son de cloche, donc je n'ai pas trouvé leur identité. Une voisine va par exemple déclarer que, dans le fond, eh bien tout ça ne l'étonne pas vraiment. Elle a toujours eu le sentiment que quelque chose clochait dans ce couple. Elle avait remarqué qu'Isidro avait comme l'air de surveiller sa femme d'un peu trop près. Il était toujours dans le coin. Un autre, pareil, je n'ai pas trouvé son identité, va quant à lui expliquer qu'il avait remarqué que quand Christelle était seule dehors ou qu'elle était dehors avec sa fille, eh bien lorsqu'elle se rendait compte qu'Isidro la regardait par la fenêtre de leur appartement, elle se dépêchait de rentrer chez elle. Voilà, puis encore autre son de cloche. Deux voisins, assez proches du couple, Adélie Rios et son père, Ernesto, vont quant à eux apporter plus de précision. Ils se disent abasourdis, ils expliquent que Christelle voulait absolument avoir un deuxième enfant avec Isidro, Pour ce faire, elle avait même suivi un traitement de fertilité, comme ce fut le cas pour leur fille avant ça, vu qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte, ça lui a pris des années. Elle avait des injections de fertilité. Ils vont aussi expliquer ne pas croire une seconde à sa peur des menaces d'Isidro d'être expulsée si jamais elle s'enfuyait, puisqu'elle leur avait dit qu'elle était en règle contrairement à Isidro, et que c'est pour que lui soit naturalisé qu'ils se sont mariés à sa majorité. Et d'ailleurs, ils expliquent que le couple faisait régulièrement des allers-retours au Mexique avec leur fille. Alors pour eux, ça ne tient pas la route. Ils ont également expliqué que 2 semaines avant qu'elle n'aille le dénoncer à la police, elle leur avait confié que son mariage était en difficulté, qu'ils se disputaient alors qu'auparavant, tout s'était toujours bien passé entre eux. Et je préfère vous lire leur déclaration, ce sera plus simple et elles sont assez étonnantes. Adélie a déclaré, je cite, « Ma mère avait l'habitude de s'occuper de leur fille. Alors, avec Christelle, elles étaient toutes les deux ici tout le temps. Il n'y avait absolument aucun signe qu'elle était malheureuse et elle était seule avec ma mère. Elle n'a jamais dit un mot. Elle avait l'habitude de s'asseoir sur le porche avec ma mère et elle discutait joyeusement sans être sous la surveillance d'Isidro. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle subissait la moindre pression de sa part. La police a dit qu'Isidro, qui, je le précise, elle parle de lui sous le nom de Thomas, mais on va continuer avec Isidro, c'est plus simple. Donc, la police a dit qu'Isidro avait changé de nom parce qu'il était en fuite après l'enlèvement, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pour qu'il puisse obtenir ses papiers qu'il a changé de nom. Quant à son père, Ernesto, qui lui était un ami proche d'Isidro, il a déclaré que 2 semaines avant son arrestation, il s'était confié à lui et qu'il lui avait dit qu'il était malheureux dans sa relation qui auparavant était stable. Il a dit, je cite, « Alors qu'il se promenait dans la rue avec sa fille, ma femme, qui s'occupait régulièrement de la petite, lui a dit qu'elle avait acheté un cadeau à la petite. Alors elle lui a dit de venir le récupérer à la maison. À ce moment, j'étais à la maison, sa fille est entrée à l'intérieur et avec Isidro, nous sommes restés sur la pelouse pour discuter. Il a baissé les yeux et a dit que son mariage était en difficulté. Il m'a dit, je cite, « Ma femme passe beaucoup trop de temps avec sa mère. Je l'ai épousée, elle, je n'ai pas épousé sa mère. Et ça ruine notre quotidien. » Il m'a aussi confié que la mère de Christelle était restée pas mal de temps chez eux, plusieurs jours ou semaines. Je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, une chose est sûre, il me l'a dit. Alors quand j'ai entendu la mère de Christelle dire qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis des années, j'ai trouvé ça insensé. Il dit aussi, je cite, « Une autre raison pour laquelle Isidro n'était pas heureux, c'était que sa femme voulait déménager à Bakersfield. Mais Isidro ne voulait pas parce qu'il avait un travail ici. Alors il avait demandé à ma femme, qui était proche de Christelle, d'essayer de la dissuader de déménager. À mon avis, si quelqu'un a peur de son mari, eh bien, il n'aurait pas besoin de demander à une amie d'essayer de l'en dissuader. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il était gentil avec elle et qu'elle était heureuse. Elle a eu un accident de voiture il y a 6 mois. Elle était en faute. Alors, Isidro a dû payer et pendant les 3 semaines où sa voiture était au garage, il lui a donné sa camionnette et il s'est déplacé à pied pour que sa femme n'ait pas à le faire. Moi, je pense que c'est un homme bon et que tout ce qui lui arrive n'est tout simplement pas juste. » Fin de citation. Donc, si ce que disent ses voisins est vrai, ça voudrait dire que Christelle était déjà en contact avec au minimum sa mère. Ce qui est entre les lignes, et d'après ses voisins, si ce que leur a dit Isidro est vrai, parce que rappelons qu'ils n'ont pas vu la mère, ça voudrait dire que Christelle aurait inventé cette histoire de retrouvailles sur Facebook. Je vous l'ai dit, cette histoire, elle est très particulière. Mais interrogée sur l'affaire Elizabeth Smart, qui est très connue aux États-Unis, elle est une personnalité publique. Souvenez-vous, c'est cette jeune fille de 14 ans qui s'était faite enlever dans sa chambre, dans l'Utah. Le kidnappeur avait fait quelques menus travaux chez la famille et était revenu plus tard pour enlever la jeune fille. Et il l'avait retenue en otage 9 mois. 9 mois horribles pendant lesquels personne ne se doutait de rien. Elle a déclaré qu'elle, eh bien, elle croit la victime. Selon elle, il faut se méfier des apparences. Elle a dit, je cite, « Nous ne connaissons pas l'emprise que ces personnes maléfiques ont sur leurs victimes. si pour les garder sous emprise, ils n'auraient pas proféré des menaces contre la famille ou contre eux-mêmes ou quoi que ce soit d'autre. Fin de citation. On rappelle que le ravisseur d'Elizabeth Smart avait menacé de tuer sa famille si elle tentait de s'échapper. Et ça avait marché. Elle était crédule, elle n'avait que 14 ans et elle l'a cru. Et d'autres encore vont se ranger du côté de Christelle et vont pointer du doigt le syndrome de Stockholm. C'est quand la victime finit par sympathiser avec son ravisseur. Le docteur Frank Hochberg, un éminent psychiatre, a déclaré que ce n'est pas forcément étonnant que dans de telles circonstances, une victime ne s'enfuit pas. Et ce, même si elle a la possibilité de le faire, ça s'est déjà vu. Il a expliqué qu'un lien traumatique pouvait se développer entre le ravisseur et sa victime. La victime est dominée, elle est infantilisée, et à l'image d'un enfant et avec le choc, eh bien, elle finit par dépendre de son bourreau, voire même de s'attacher à lui comme le serait un enfant avec son parent. Il y a alors une sorte de dépendance qui s'opère, surtout quand le ravisseur fait des gestes de gentillesse. Un cadeau, de la nourriture, la permission d'aller aux toilettes, etc., etc. La peur est alors remplacée par des sentiments positifs qui masquent en réalité un lien traumatique. Et c'est peut-être le cas dans cette affaire, ou bien Christelle était tout simplement terrorisée à l'idée des conséquences en cas de fuite. Il explique que certains choisissent tout simplement de ne pas prendre ce risque. Mais un autre témoignage va arriver. Et cette fois, c'est celui d'un voisin, et non pas un voisin du couple, mais un voisin de la mère à Christelle qui a côtoyé la famille 10 ans plus tôt au moment de la disparition. Il a témoigné qu'il était proche de la mère de Christelle et que peu de temps avant la disparition de sa fille, eh bien, elle s'était confiée à lui. Elle lui avait dit qu'elle soupçonnait son petit ami d'avoir des relations intimes avec sa fille et qu'elle les suspectait de vouloir s'enfuir ensemble. Et c'est peu de temps après ces confidences que Christelle a disparu. Voilà pour les différents témoignages. À partir de là, et à la lumière de tous ces éléments, beaucoup vont commencer à remettre en doute la version de Christelle. Pourtant, avant, sa version faisait l'unanimité, alors que d'autres lui seront d'un soutien indéfectible. Dès lors, ces deux camps qui vont s'affronter. Mais tout ça, ça ne change rien pour Isidro, qui de son côté est inculpé d'un chef d'accusation de viol, d'un chef d'accusation d'enlèvement avec intention de viol et de 3 chefs d'accusation d'actes obscènes sur un enfant. Sa caution est fixée à 1 million de dollars et il risque gros, il risque la prison à perpétuité. Je précise que j'ai vu des sources, moins nombreuses, qui parlent d'un maximum de 19 années de prison. Le procès s'ouvre près de 2 ans après les faits. Nous sommes alors le 11 février 2016 et Isidro plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés. Pendant le procès, son avocat, maître Seth Bank, va expliquer que son client reconnaît avoir eu une relation inappropriée avec Christelle, qui n'était alors âgée que de 15 ans. Oui, il a fauté et il doit être puni pour ça, mais pas pour autre chose, puisqu'il soutient qu'il ne l'a jamais forcé. Que de plus, son client n'a jamais eu aucun problème avec la justice et qu'il passait le plus clair de son temps à travailler. Il a également montré des photos du couple, tout sourire à travers les années, tantôt des photos de leur mariage, tantôt des photos de famille avec la petite, des photos à l'église, des photos en vacances. Il a expliqué qu'Isidro adorait sa femme et sa fille, et que même s'il a fauté, même si jamais il n'aurait dû entamer une relation avec une fille aussi jeune, les deux sont malgré tout tombés amoureux. Il explique qu'il aimait Christelle et qu'il a toujours pris soin d'elle, au point de prendre tous les risques quand elle a manifesté son envie de fuir son domicile, puisque mère et fille se disputaient continuellement. Il explique que c'est Christelle qui voulait fuir et non pas Isidro qui l'a convaincu à fuir. Il explique que c'est Christelle donc qui voulait fuir et que Isidro l'a aidé. Ce n'est pas lui qui lui a dit « viens, enfuis ». Et il explique aussi que c'est lorsque leur relation a commencé à battre de l'aile, quelque temps avant la dénonciation, que Christelle aurait repris contact avec sa famille via les réseaux sociaux qu'à partir de là, elle a eu des doutes, et peut-être même qu'elle a vu là l'opportunité de se débarrasser d'Isidro et de l'écarter de sa fille, ainsi pas de garde partagée, et puis elle pourrait garder l'ensemble de leurs biens. Pas de divorce, et toutes ses conséquences, en d'autres termes. Et la partie adverse, à savoir la procureure adjointe du comté d'Orange, Whitney Bokowski, elle a quant à elle déclaré qu'il s'agit là d'un type de captivité différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, petite parenthèse. Les procureurs savaient que tout l'enjeu du procès était de réussir à convaincre les jurés que Christelle était bien captive, et ce malgré les apparences. Et les procureurs se doutaient que le jury allait forcément être perplexe. C'est souvent le cas quand une victime n'agit pas de la manière dont on peut s'attendre à ce qu'une victime agisse. Voilà, c'est un peu ce que disait l'une des voisines. Je ne comprends pas pourquoi elle a parlé aussi tard. On sait que des victimes parlent parfois des années plus tard, voire même jamais. Et d'autres vont parler tout de suite. Et que donc, le fait que Christelle et Isidro semblaient vivre de manière consensuelle risquait de profiter à Isidro. Voilà, parenthèse fermée. Alors, Whitney Bokowski va rappeler lors de l'audience qu'il s'agit là d'une captivité mentale, que Christelle ne savait pas où aller, qu'elle ne savait pas vers qui se tourner. Elle a donc demandé au jury de regarder au-delà de l'apparence d'une famille heureuse. Et elle va aussi expliquer qu'en réalité, si Christelle s'est décidée à fuir et qu'elle a contacté la police, c'est qu'elle avait, tenez-vous bien, aussi et surtout peur qu'ils ne s'en prennent à leur fille, comme ils s'en étaient pris à elle alors qu'elle était encore très jeune. Elle a expliqué que peu de temps avant sa fuite, Christelle s'était inquiétée, je cite, de la façon dont Isidro s'était allongé à côté de sa fille, et que ça a été un électrochoc pour elle. Sans compter que la veille de la dénonciation, Isidro lui avait tiré les cheveux et l'avait poussé contre un mur, lui faisant des ecchymoses au bras, et c'est pourquoi elle avait aussitôt, en même temps que la dénonciation, demandé une ordonnance restrictive. Puis Christelle va déclarer à la barre, je cite, « Pendant les 10 années où j'ai vécu avec lui, il m'a toujours menacé que si je disais quoi que ce soit à qui que ce soit, je serais jetée en prison pour avoir utilisé de fausses pièces d'identité, que l'immigration m'expulserait et que je ne reverrais plus ma fille. » Christelle va aussi expliquer que c'est le fait d'avoir repris contact avec sa sœur qui lui a permis de reprendre confiance en elle et ainsi de se détacher de l'influence qu'avait Isidro sur elle. Elle maintient fermement sa version. Elle a pris contact avec sa sœur le jour même où elle est partie dénoncer Isidro. Et enfin, elle estime qu'il lui a volé sa jeunesse. Sa mère et sa sœur vont également venir apporter leur témoignage, les voisins aussi. Et les jurés, au moment de la délibération, eh bien, ils seront bien incapables de se mettre d'accord. Plusieurs jurés déclareront qu'ils étaient divisés et profondément troublés par la différence entre le récit de l'un et le récit de l'autre. Après des heures de tergiversation, ils ont indiqué au juge être parvenus à se mettre d'accord concernant l'accusation d'enlèvement ainsi que les actes open, et je vous dirai plus tard leur décision, mais qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les accusations de viol. Alors, le juge va ajourner les délibérés, et il va les reporter au lendemain afin qu'ils puissent se mettre d'accord sur un verdict concernant ces accusations. Et sentant le vent tourner et redoutant un acquittement, chose assez rare, quelques minutes seulement avant la lecture du verdict, l'accusation va proposer un accord à Isidro. Accord qu'il va rejeter. Et c'est donc le 4 mars 2016 que les résultats tombent. Isidro a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'actes open sur mineur, et pour ça, il est condamné à 4 ans et 4 mois de prison, ainsi qu'à l'obligation de s'enregistrer comme délinquant sexuel à vie. Il a été déclaré non coupable d'enlèvement en vue de commettre une infraction sexuelle. Quant à l'accusation de viol forcé, elle a été rejetée à la demande du procureur du district après que le jury n'ait pas été en mesure de prendre une décision sur cette accusation. Voilà, donc il est condamné à 4 ans et 4 mois. Et 4 ans, c'est peu. Et pour vous donner une idée, Brian David Mitchell, Le vagabond qui avait kidnappé Elisabeth, eh bien lui avait été condamné à 15 ans de prison, sans compter toutes les années qu'il devait passer en hôpital psychiatrique et qui s'ajoutaient à cette peine. Donc bien plus. Donc ça veut dire qu'avec les éléments qui leur ont été présentés, les jurés en ont conclu que Christelle s'était enfuie de manière volontaire avec Isidro. Ou peut-être que le doute a tout simplement profité à l'accusé. La procureure Whitney Bokowski s'est dit déçue du verdict. Elle a déclaré, je cite, « Je savais que c'était une affaire difficile, mais j'ai vraiment cru la victime et j'ai senti que je pouvais convaincre les jurés, mais je n'y suis pas arrivée. » Elinor Miklos, l'une des jurés, a quant à elle déclaré, je cite, « Je ne pense pas que justice ait été rendue, parce que je ne crois pas qu'un homme adulte ait le droit de profiter d'une jeune fille dans la situation dans laquelle Christelle se trouvait. » Quant à la présidente du jury, Yolanda Novixi, elle a quant à elle déclaré qu'elle en était arrivée à la conclusion que Christelle avait inventé son histoire parce qu'elle ne voulait plus être avec Isidro, mais qu'elle voulait la garde de leur fille. Elle a aussi déclaré, je cite, « Beaucoup d'entre nous ont estimé qu'elle avait commis un parjure à la barre, qu'elle n'était pas honnête. Nous avons eu le sentiment qu'elle était partie volontairement avec lui et qu'elle a raconté tout ce qu'il était possible de raconter pour gagner son affaire. » Donc, sachez aussi qu'Isidro devra servir sur ses 4 ans et 4 mois de prison un minimum de 2 ans de prison. Avec le jeu des remises de peine et comme il avait déjà servi près de 2 ans, dans l'attente de son procès, eh bien Isidro n'en avait plus pour très longtemps. En sachant également qu'il risque d'être expulsé vers le Mexique à sa libération. Son cousin, Ricardo Manzanares, a déclaré quant à lui qu'Isidro a de la famille à Jojutla, une ville rurale au sud de Mexico, et qu'il y retournerait à sa libération. Bien oui, hein, il faut savoir aussi que lorsque vous êtes fiché, surtout ce type de fichage, eh bien, bon courage pour trouver un travail. Voilà. Donc, s'il retourne au Mexique, ça veut dire qu'a priori, soit sa fille ne verra plus son père, soit qu'elle ne le verra qu'occasionnellement, voire plus du tout. C'est souvent les enfants qui sont pénalisés. Peut-être que c'est une bonne chose si ce que Christelle a dit concernant le fait de l'avoir vu s'allonger bizarrement à côté de sa fille. Et depuis, comme nous sommes en 2024, Isidro est forcément sorti de prison. Alors j'ai probablement mal cherché, pas assez bien, mais je n'ai rien trouvé de ce qu'il est advenu. Je ne sais pas s'il a été expulsé, ou s'il est resté aux États-Unis, ou s'il est parti de son plein gré au Mexique. Je ne sais pas, donc si l'un d'entre vous arrive à résoudre ce mystère, eh bien dites-le nous en commentaire et je l'épinglerai. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous-mêmes, avec ma sœur, on était divisés. Alors, c'est moi qui écris l'histoire, et je dois vous dire que plus j'en découvrais, et plus je changeais d'avis. Le doute était constamment présent, mais au final, vu que je vous demande votre avis, je vais pour une fois vous donner le mien. Moi, et s'il vous plaît, no hate, je ne prétends pas détenir la vérité, mais moi, je pense qu'il y a anguille sous roche, que Christelle n'est pas tout à fait claire. Oui, elle reste une victime parce qu'Isidro avait 31 ans au moment de leur rencontre. Donc, il est inexcusable pour ça, c'est clair, ça a forcément faussé leur rapport. Mais je dois vous dire que je pense pour la fuite volontaire. Préparée ou pas, je pense que Christelle voulait partir. Ce qui expliquerait les doutes que la mère avait confiés à son voisin à l'époque. Donc finalement, je pense un peu pareil que les jurés. Et je pense que j'aurais statué pareil. Et donc, je pense que Christelle, au bout de 10 ans, ne voulait plus d'Isidro. Après tout, elle n'avait plus 15 ans, elle avait 25 ans. C'était désormais une femme, non plus une adolescente. Alors, bon, elle s'est lassée d'Isidro. Et pour avoir la garde de sa fille et vivre sa vie, conserver les biens, la maison, déménager, eh bien, c'était là le meilleur moyen. Mais ma sœur, bon, je précise que Lilia, ma sœur, hein, sachez qu'elle, elle se mettra toujours, mais absolument toujours, du côté des jeunes victimes. Je crois qu'à une seule occasion, elle a douté de la version d'une adolescente, mais une seule fois. Et pour elle, il y a nécessairement eu emprise. Avec une telle différence d'âge, les dés étaient forcément pipés. Et quand bien même Christelle était amoureuse, son âge et sa situation précaire a forcément eu un impact sur cette relation qu'on peut de facto définir comme consensuelle. Et cette emprise a forcément eu un impact sur la suite aussi. Peut-être que sans lui, elle n'aurait jamais décidé de fuir, si toutefois c'était elle qui avait décidé de fuir. Elle pense qu'elle a été kidnappée. Et un jour, devenue mère et adulte, elle se serait comme réveillée de sa torpeur et aurait décidé de mettre un terme à ce qui ne sont ni plus ni moins que des abus. Abus dont, à l'image de Judith Godrèche, on ne se rendrait compte que bien plus tard. Et elle estime qu'il lui a effectivement volé sa jeunesse. Et si elle avait été jurée, eh bien, elle l'aurait envoyée en prison pour le max du max. Voilà, vous connaissez nos avis. Alors, c'est à votre tour. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et je suis sûre que vous-même vous serez divisé. Mais il va être intéressant de voir si en commentaire une tendance va se dégager. Peut-être que vous serez plus, beaucoup plus pour une version ou beaucoup plus pour l'autre. Je serais curieuse de voir ça. Alors, plus que jamais, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos impressions. Donc ça, c'était la fameuse histoire ultra confidentielle et jamais traitée sur la plateforme dont je vous parlais et que je vous ai promis concernant le sujet sur Cheryl. Et au final, je ne sais pas laquelle des deux vidéos sortira en premier. Donc, je pensais qu'il n'y avait rien. Finalement, j'ai trouvé deux très courtes vidéos de journal télévisé sur YouTube. Au moment où j'enregistre, je peux vous dire que le montage risque d'être super long. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde en avait parlé. Voilà. J'avais pas vu tous les articles qu'il y avait sur Google. Jusqu'à France Info et même BFM, c'est vous dire. Donc, pas si confidentiel que je le croyais, donc mea culpa. Je m'excuse, mais en tout cas, sachez qu'aucun média français n'en a parlé en détail et aucun n'a fait un véritable suivi de l'affaire. Donc, ils ont tous relayé les mêmes informations, à l'exception d'un ou deux médias, mais sans plus quand même. Rien de mieux pour faire du clic et après, basta, comme la mariée russe. Débrouillez-vous pour connaître la fin de l'histoire. Dans tous les cas, sachez qu'en français, vous n'aurez pas meilleure source que la mienne. Hihi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.